Orphée aux antipodes, Simon Martin, sur Radio Grand Ciel. Voilà réduit à l'essentiel les éléments constitutifs d'une expérience que la plupart d'entre nous, les plus chanceux en tout cas, ont pu faire. Expérience vécue à l'enfance, jusqu'à cet âge assez terrible où l'on s'entend dire « tu es assez grand », je veux bien sûr parler de la lecture. Adolescents, adultes, nous ne connaissons plus que le lecteur privé, celui qui, dans le silence, lit pour lui-même. Le lecteur public, dont nous fûmes malheureusement sevrés, est d'un tout autre genre. La lecture, c'est un peu comme le vélo. Il y a les livres de plaine, les livres contre la montre et les livres de montagne. Certains sont de longues descentes euphoriques, d'autres d'épuisantes ascensions qui offrent à l'arrivée un panorama époustouflant. Ce qui vaut pour la lecture privée vaut pour la lecture publique. À cette différence, différence majeure, que vous montez sur un tandem et que vous vous abandonnez à l'expérience et au mollet d'acier du pilote. Eh bien, c'est en compagnie d'un lecteur public que nous allons passer la prochaine heure. Ce lecteur, c'est Marc Roger. Bonjour Marc.
Bonjour.
Vous nous faites l'amitié de venir dans nos studios pour évoquer votre dernier projet en date, À la limite, lecture et littoral, se concrétisera en janvier prochain et vous verra parcourir des centaines de kilomètres durant un an le long du littoral, à pied, en livre et à voix haute, de Bray-sur-Dune à Hendaye. Comme vous le dites dans la présentation de cette aventure. Celle-ci est la continuité de votre parcours de lecteur public et de marcheur, les deux étant intimement liés dans votre histoire et nous allons avoir l'occasion d'y revenir au cours de cet échange. Marc Roger, il faut bien commencer par le commencement. Qu'est-ce qu'un lecteur public ?
Merci pour cette belle introduction qui me met sur les rails. Eh bien, pour moi, un lecteur public, c'est une personne qui prend un objet, le livre, en main et qui lit à voix haute ou à haute voix, selon l'expression, et tout à fait différent comme posture que le comédien qui mémorise un texte ou que le conteur qui va raconter une histoire avec ses propres mots. Là, en tant que lecteur public, je suis confronté à la syntaxe, au vocabulaire, à la grammaire de l'auteur et je dois m'y conformer puisque je lis mot après mot avec le support du livre en main. Voilà la définition très synthétique.
Vous avez commencé par le théâtre pourtant.
Très brièvement, j'ai commencé essentiellement par l'écriture de la poésie. Et pendant 10 ans, j'ai œuvré sur scène en spectacle solo avec des textes qualifiés à l'époque de poésie sonore.
Et vos propres textes donc ?
Oui, mes propres textes. Il y a eu plusieurs spectacles, il y a eu Dresseur de mots, Cracheur d'images, Il pleut du vermicelle au-dessus de 400 mètres. Et avec ces spectacles-là, économiquement, j'avais beaucoup de difficultés à vivre. Et c'est la proposition d'un animateur en maison de retraite qui m'a mis le pied à l'étrier avec l'activité de lecture à voix haute auprès des personnes âgées. Et là, ça a été une vraie révélation.
Alors, on va y revenir sur votre activité en maison de retraite parce que je sais que c'est très important pour vous. Pourquoi justement le métier de comédien ne vous allait pas ? Qu'est-ce qui vous gênait là-dedans par rapport à la lecture justement ?
Oui, j'ai eu deux, concomitamment avec mon début en tant que lecteur, j'ai eu deux propositions d'interprétation et qui ont été des propositions heureuses. Avec un metteur en scène, écrivain, auteur dramatique, François Chaffin, la compagnie Théâtre du Menteur, basée dans l'Essonne. Et j'en garde un excellent souvenir. mais je ne disposais pas de la liberté qui est celle que j'éprouve quand je suis seul maître à bord, en toute modestie par rapport au texte de l'auteur que je décide de lire. C'est quand même une très très grande liberté d'être confronté à un livre, 600 pages, 50 pages, peu importe, et puis de se dire quels sont les extraits que je vais sélectionner pour les partager avec le public. Ça, c'est une grande liberté.
Alors, vous avez commencé en 93, en tout cas au début des années 90, la lecture publique. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ces lectures sauvages que vous avez faites ?
Ah, vous me rappelez des situations exceptionnelles. La première grande lecture sauvage faite était organisée par mes soins sur un coup de tête en 1995, en décembre 1995, à l'occasion des grandes grèves. Paris, ouais. Banlieue, était complètement immobilisée, mais certaines personnes s'en souviendront avec douleur, parce que, en ce qui me concerne, je ne pouvais plus travailler. Toutes mes lectures se déroulaient dans des maisons de retraite à 50, 100 km de Paris. Et puis, un coup de sang, j'avais pas encore l'usage d'Internet et j'envoie des invitations par voie postale à mes proches, des amis, à 15h au kiosque à musique au jardin du Luxembourg, dans les jardins du Sénat. Et là, une petite température, 3 degrés au-dessus de zéro. On s'installe sous le kiosque à musique. J'avais deux amis qui étaient venus m'écouter, la foule. Et au bout de 5 minutes de lecture, je me dis, c'est pas là qu'il faut se mettre, ça fonctionne pas. Et je décide de m'asseoir sur les marches du jardin qui descendent vers le grand bassin qui est derrière le Sénat. Et je décide de lire une nouvelle de Dino Buzzati, Quiz aux travaux forcés, extraite du recueil Le Cas. Et je ne considère plus le public, je me ramasse sur moi-même, je commence à lire cette nouvelle et j'observe, en lisant dans mon champ visuel, les pieds des badauds qui commencent à s'arrêter. Une personne, deux personnes, 10, 20. À la fin de la lecture, il y avait, je ne sais pas, 25 personnes. Et là, je commence à choisir des textes dynamiques, drôles. Et il y a eu, au meilleur moment, je ne sais pas, 150, 200 personnes. Les gens étaient tellement exaspérés de cette situation explosive où on ne pouvait plus rien faire. Et il y a eu un moment absolument magique. Le gardien du jardin qui vient avec son sifflet, qui siffle « Mesdames, messieurs, c'est l'heure de la fermeture du parc, si vous voulez bien rejoindre les sorties. » Et puis, moi, j'ai rien dit. Il y a un spectateur qui a commencé à râler « Laissez-le finir son histoire, s'il vous plaît. » Et là, il y a eu un élan, mais vraiment populaire, sympathique. La fin de l'histoire, la fin de l'histoire. Le gardien qui insiste avec son sifflet. Vous savez, j'habite en banlieue avec les grèves. J'ai 3/4 d'heure de vélo. Ça va y est, sympathique. Enfin, tout ça se passait sans agressivité, mais c'était tendu. Et j'étais obligé d'interrompre l'histoire. Et très curieusement, je suis allé vers le RER, la sortie du Luxembourg, et je pensais que c'était une affaire close, terminée. Tout le public m'a suivi. Le groupe s'est reconstitué à la sortie du jardin. Il y a un vieux monsieur qui m'a apporté un cornet de marron chaud. Enfin, j'en garde un souvenir quand je serai à la maison de retraite avec mes petits-enfants. Je dirais, écoutez, papy, il a fait la lecture au jardin du Luxembourg.
À la frustration de ne pas connaître la fin d'un livre, effectivement, ça peut mener loin.
Oui, exactement.
Vous avez aussi eu des expériences dans un restaurant qui ont fort bien marché, m'a-t-on dit, avec de la lecture érotique, entre autres.
Alors, le premier qui a fait « Oh là, vous êtes bien documenté, hein, j'ai intérêt à ne pas dire, à ne pas inventer. » Alors, le premier café littéraire que j'ai animé, c'était l'écritoire Place de la Sorbonne. et c'était intitulé « Les rendez-vous d'Eros ». Et là, oui, je me suis documenté, plongé dans la littérature érotique, et c'était un univers que je ne connaissais pas du tout. J'ai commencé à rencontrer des écrivains qui en écrivaient, sous pseudonyme. C'est un monde extraordinaire. Les écrivains les plus célèbres, je ne citerai aucun nom, qui commencent à avancer masqués. Et puis voilà, ce texte-là, oui, je l'ai trouvé. je l'ai trouvé que chic, c'est eux, ce sont eux les auteurs. Et j'ai trouvé ça passionnant. Et j'ai eu beaucoup de plaisir et j'ai eu beaucoup de surprises sur la réception de la littérature érotique en direct avec le public. Ça fait réagir, mais alors à chaud, des gens qui disent « Non, c'est pas ça la littérature, c'est pas ça l'érotisme, ça c'est de la pornographie. » La littérature érotique est peut-être classée pornographique pour certaines et certains. C'est une échelle de Richter, comme les ondes sismographiques. Pour certains, c'est du 7,6. Pour d'autres, c'est simplement du 2,5. Très intéressant.
Alors, ce n'est pas du théâtre, mais vous mettez quand même quelque part le livre en scène. Je pense à cette lecture du Baron Perché auquel nous avons assisté et que vous avez fait, par exemple, en haut d'un arbre. C'est comme le livre prend vie à un moment donné.
Alors là, c'était un très très vieux rêve parce que le Baron Perché, Italo Calvino, d'une manière générale, est un de mes auteurs fétiches. Et je m'étais dit, oui, lire le Baron Perché, il faut le faire, mais perché dans un arbre, comme le héros, Côme, qui a l'âge de, pour les auditrices et les auditeurs, qui a l'âge de 7 ans ou 11 ans. Oui, décide de ne plus rester sur Terre parce qu'il refuse le plat d'escargot que son père l'oblige à manger. Et il grimpe dans une yeuse et toute sa vie se passera dans les arbres. Et ça, c'était incontournable pour moi. Si je voulais partager ce chef-d'œuvre, il fallait que moi-même je monte dans les arbres. Et ça a été un fantasme pendant, je ne sais pas, une dizaine d'années. Et puis un jour, j'ai pris le taureau par les cornes. Je suis allé voir un ami, créateur d'objets improbables pour le théâtre, accessoires. Si vous vouliez un parapluie qui fait des bulles, il vous inventait ça en une machine à faire des bulles. Et plein d'accessoires bizarres. Et je lui ai dit, je suis allé dans son atelier, il me faut une chaise adaptable à tout type de branche pour pouvoir lire le Baron Perché de façon sécure. J'y grimperai à tel moment du roman et il m'a inventé ça. Et à partir du moment où l'objet a été devant mes yeux, je me suis dit il faut que tu m'accompagnes et on va essayer cet objet dans un arbre. C'était je parle de lui à l'imparfait parce qu'il n'est plus. Et il m'a accompagné, c'était un escaladeur, il m'a assuré. Mais toutes mes frayeurs ont disparu. Je m'en faisais une véritable montagne de lire dans un arbre. Et après, cet objet créé, cette première tentative d'être assis dans un arbre à 6-7 mètres. Et ça, là, oui, on est sur de la lecture scénographiée. Il y a un musicien polyinstrumentiste.
Il y a beaucoup de musique dans vos lectures. Par exemple, sur le projet littéral, vous êtes accompagné par un guitariste.
Oui.
Cette dimension de rajouter de la musique, c'est sûr que ça la rajoute quelque chose au texte lui-même.
Bien, je crois qu'il y a la musique des mots. Et puis si on est confronté, si on travaille en étroite collaboration avec un musicien qui est sensible à la littérature, je pense qu'il peut trouver une composition originale pour être... La musique est un exhausteur, comme il faut du croustillant pour que le chocolat s'exprime auprès de toutes vos papilles. La musique, c'est un exhausteur de mots, un exhausteur de sens, et ça permet des silences qui sont grandis par la composition musicale. Le guitariste Thierry Brisac, avec lequel je travaille, c'est un grand littéraire, Et souvent, c'est lui qui me propose les textes, qui me dit « ce serait bien que nous travaillions sur tel texte ». J'ai eu l'audace de lui proposer « Le bateau ivre » d'Arthur Rimbaud dernièrement. On a laissé tomber en cours de route. La semaine dernière, il me dit « Eh oh, le bateau ivre de Rimbaud, ça y est, moi j'ai toutes mes compositions, il faut absolument qu'on retourne au studio ». Et c'est vraiment un aiguillon très très fort. Et là, pour le voyage dont nous allons parler, je pense à Jacques London, La croisière du Snark, je pense à 20 000 lieues sous les mers de Jules Verne. Il est vraiment dans cette création d'univers, il les augmente.
Alors, être lecteur public suppose d'être un lecteur tout court. Comment choisissez-vous vos livres ? Je crois que vous aimez bien sûr les classiques, mais vous n'hésitez pas à proposer des livres d'aujourd'hui, la littérature contemporaine, avec des auteurs qui ne sont pas forcément très connus.
Alors, c'est un gros travail de découverte. Je suis sans arrêt en lecture personnelle, lecture silencieuse, avec tout de même des découvreuses et des découvreurs dans mon environnement. Je vis avec une épouse qui est une très grande lectrice. Moi, je suis un petit joueur à côté. Et au fil de ces découvertes, ce serait bien quand même que tu prennes le temps de lire ce passage. Elle me fait beaucoup la lecture à voix haute, beaucoup plus que moi à son endroit, pour que j'entende le texte qu'elle a découvert.
Donc, c'est vraiment des découvertes de textes contemporains.
Contemporains, ou du XXe siècle.
Oui, du XXe siècle.
C'est une inconditionnelle de Romain Gary, c'est elle qui m'a fait enregistrer des extraits Promesses de l'aube de Romain Gary. Et je fais partie d'un club de lectrices et de lecteurs à la librairie Le Merle-Moqueur, dans le 20e arrondissement à Paris. Et c'est un club qui se réunit une fois par mois pour parler de ses coups de cœur. Il n'y a pas de règle du jeu, si ce n'est règle du jeu de déguster des bons whisky, de boire des bons vins et d'être en totale amitié. Et c'est un club dans lequel je parle très très peu. Je partage très peu mes coups de cœur et j'écoute beaucoup les coups de cœur des autres. Et là, je prends des notes et là, ça me permet de découvrir la littérature contemporaine, qui est immense.
Radio Grand Ciel.
À chaque fois que je pars en voyage de lecture itinérante, je cherche un texte emblématique qui puisse être publié sous forme de passeport de lecture. Et cette fois-ci, j'ai trouvé un texte de Michel Butor. Dans son anthologie Nomade, le texte est très très long, il s'intitule « Le noircissement de la mer ». J'ai obtenu l'autorisation de Poésie Gallimard de publier à titre gratuit, puisque c'est distribué aux spectateurs qui me rejoignent sur le chemin. Et ce texte va être lu de manière chorale, puisque les gens auront le passeport entre les mains. On peut s'imaginer sur les bords du Cap Fréhel, on voit la Manche et tous ensemble on lit « La mer, lave, rince, relave, rince, délivre, que la mer me lave, que la mer me purifie, que la mer m'emporte, que la mer me retourne, que la mer me change, que la mer me débarrasse de toute cette boue, de toute cette graisse, de toute cette suie, de tout ce sucre. La mer, papier sale, mégots, assiettes en carton, sandales dépareillées, bouchons de tubes, la grande lessive de la mer, que la mer me frappe, que la mer me pénètre, que la mer me guérisse, que la mer m'ouvre les yeux, îles, chenaux, goulets, détroits, récifs. Michel Butor.
Thank you.
Vous écoutez Radio Grand Ciel et nous sommes en compagnie de Marc Roger, lecteur public. En janvier prochain, Marc Roger partira sur les routes pendant un an, longeant tout le littoral français de Bray-sur-Dune à Hendaye, des livres pleins les poches évidemment. Marc Roger, vous avez la passion du livre, de la littérature, mais vous avez aussi la passion de la marche.
Ça, c'est une passion qui est en moi depuis l'adolescence et que j'ai découverte dans les Pyrénées grâce à une colonie de vacances. J'étais colon et j'ai découvert l'exaltation de marcher en altitude, Artigues, pour ceux qui connaissent un peu les Pyrénées, et de monter jusqu'à l'observatoire du pic du Midi de Bigorre, dans ces alpages, dans ces névées, dans ces paysages embrumés, ensoleillés. Une véritable découverte pour l'adolescent que j'étais. Et ça ne m'a plus jamais quitté. D'aller vers, de marcher vers cet horizon qui se dérobe sans cesse à vous, à votre avancée. Et j'ai constaté qu'il y avait métaphoriquement des parallèles entre la marche, l'écriture et la lecture. Et mon premier voyage de lecture itinérante, le Tour de France à pied.
En 97.
97, exactement, et 98. Eh bien, ça s'est confirmé que ce rythme de lecture silencieuse ou de lecture à voix haute s'apparentait à cette patience qu'il faut de mettre un pied après l'autre, et qu'il ne faut jamais de précipitation si on veut découvrir un texte, le goûter dans son écriture, dans sa profondeur philosophique ou poétique. Il faut être patient. En lecture silencieuse, je trouve que très vite on peut être un lecteur de surface, qu'on peut se laisser prendre par l'intrigue, par X, ce qu'on appelle aujourd'hui en termes de marketing les tourne-pages. Et oui, on est arrivé à la fin, on a même pas eu le temps de dire ouf, on a passé un bon moment. Aucune critique à cet égard. Et je m'aperçois que en lecture rencontre avec certains auteurs, où il y a du public qui a déjà lu le livre et puis qui, à l'issue de votre lecture, dit « Mais je découvre ce chapitre, je n'avais pas entendu tout ça, je n'avais pas lu tout cela. » C'est ce qui est dicté aussi par la marche à pied, où on peut avoir une vision globale des paysages. Et souvent, je me dis, observe, lis les paysages. Prends le temps de regarder les détails. La vie n'est faite que de détails. Et actuellement, dans ma recherche de textes longeant le littoral, j'ai des découvertes de paysages qui se font par le filtre des écrivains. Et je me dis que les écrivains nous aident à lire les paysages, et que si on lit bien les paysages, on lira peut-être mieux les livres. C'est un aller-retour un peu bizarre qui peut paraître un peu gratuit.
D'autant que les paysages changent. Et est-ce qu'on peut effectivement avoir des découvertes comme des empreintes du passé autour, par exemple, de la nature. Beaucoup d'écrivains parlent d'un certain nombre de plantes ou d'oiseaux qui, malheureusement, aujourd'hui, n'existent plus,
Ou des paysages industriels qui ont changé. Là, je reviens d'une semaine de repérage entre Bray-Dune et Dunkerque. Et j'avais beaucoup de rendez-vous, mais j'ai quand même fait la randonnée de la frontière belge, Bray-Dune, jusqu'à Dunkerque à pied pour voir où vont poser leurs pieds les spectateurs et spectatrices qui marcheront avec moi pour la première étape. Et puis je rencontre le directeur des animations de la BIB de Dunkerque, et puis qui regarde mon programme de lecture et qui dit « Mais je ne vois pas Dunkerque, je ne vois pas tel auteur. » Et tout de suite, moi je lui dis « Quels sont les auteurs incontournables si vraiment je veux connaître la littérature qui s'est écrite à Dunkerque et environ ?» Et il me dit « Jean Rollin, Frigo, Cargo Frigo. » J'emprunte le livre et je lis Jean Rollin, et tout d'un coup, je découvre Dunkerque. Je découvre le Dunkerque des années 2000-2003, 2004, avec tout le contexte des syndicalistes, un univers dur. Et je découvre des descriptions de la ville de Dunkerque. Et là, je me dis, je n'ai rien vu. Je n'ai rien vu. Il y a un écrivain qui m'ouvre les yeux sur la ville de Dunkerque. Et je n'ai plus qu'une hâte, c'est d'y retourner. Avec cette lecture et cette écriture qui a posé des mots sur le réel et des mots justes. Alors que je pourrais vous dire, oui, Dunkerque, il y a un complexe pétrolier, il y a un complexe pétrochimique, il y a une gare, il y a la place Jean Bar. C'est de la description très, très généraliste de guide de voyage. Là, avec Jean Rollin.
Alors, de la même façon qu'on apprend à marcher, qu'on apprend à lire, je pense qu'on apprend aussi à voyager. Et vous avez une longue expérience des voyages, Saint-Malo-Bamako, et puis surtout, ou entre autres, Auxerre. Auxerre, c'est le titre du livre paru chez Actes Sud, Auxerre, pays imaginaire, mais qui était le fruit d'un long voyage de 20 000 km autour de la Méditerranée.
Auxerre, c'est un condensé phonétique de la première syllabe Occident et la première syllabe Orient, que j'ai relié par la lettre X, la lettre des croisements possibles. Et sur les chemins d'Auxerre, pendant un an, j'ai marché, pas les 20 000 km, mais une bonne partie, pour aller lire de pays en pays. Alors cette expérience du voyage, oui, se construit au jour le jour. Et pour le voyage qui va me faire partir à nouveau sur les chemins au mois de janvier 2023, je dirais que mon expérience, elle est de rien du tout. Chaque voyage est un nouveau défi, et c'est une nouvelle lecture, ce sont de nouvelles rencontres. Et on a beau se dire, oui, il faudrait que j'évite tel écueil, tel défaut dont j'ai fait preuve lors de mes précédents voyages. On est tout neuf. Et ça, c'est une règle que je m'impose et que j'essaye de garder constamment à l'esprit pour ne pas tomber dans les facilités ou dans les « oui, j'ai de l'expérience », zéro.
Nicolas Bouvier disait qu'un voyage nous fait et surtout nous défait. Et dans votre voyage autour de la Méditerranée, vous avez eu pas mal d'aventures.
Il y a eu des aventures.
Et des mésaventures.
Et des mésaventures, oui. En Bosnie, notre véhicule de logistique a disparu une nuit alors qu'il n'était pas garé au bon endroit, qui n'était pas sécure. Et on a perdu dans cette mésaventure toute la bibliothèque du voyage. C'était au mois de décembre 2003. Nous approchions de Sarajevo et il était prévu de faire un don de livres, d'albums jeunesse aux enfants de Sarajevo qui sortaient d'une guerre fratricide épouvantable. Et là, ça a ajouté au malheur. Qui était bien moindre pour nous qui venions de France que ces personnes que nous avons rencontrées meurtries, brisées par la guerre. Et ce sont des mésaventures. Et puis, on rebondit, on est passé en Macédoine, après la Bosnie-Herzégovine. On est passé en Croatie, Macédoine, et on est arrivé en Grèce où ça a été un mois de fête avec l'épiphanie orthodoxe. Qui nous a réunis, c'était vraiment fantastique.
Mais le principe du voyage, il faut s'attendre effectivement à tout.
Il faut s'attendre à tout, il faut un sacré moral. Hein. Bon, moi je suis bien entouré, ces voyages-là, je les faisais avec ma femme, qui s'occupait de la logistique, qui conduisait le véhicule, et il y avait notre petit garçon, qui a été un personnage crucial du voyage, parce qu'il avait sa lecture des événements. Et le livre qui est paru chez Actes Sud est constellé de phrases que cet enfant de 7 ans a dites avec une fraîcheur et une pertinence époustouflantes. Je lui dois beaucoup en tant que droit d'auteur.
Alors là, vous partez pour un nouveau voyage de Dunkerque à Hendaye. Alors pourquoi ce trajet? Pourquoi le littoral?
Pourquoi le littoral? Alors, l'origine du projet est issue complètement du confinement que nous avons vécu, du drame collectif, du drame de cette situation sanitaire. Je vis en appartement à Paris. Et comme des millions de gens, j'ai vécu le pass sanitaire, le kilomètre. Et moi qui aime, avec tant d'autres, marcher, tourner autour du Père Lachaise, quotidiennement, j'en pouvais plus. On a tous, vraiment, je parle plus en mon nom, mais on a vraiment tous souffert. Et tout d'un coup, je me suis dit, c'est pas possible. Il faut que je reparte. Je me suis projeté au-delà de cette période catastrophique. Et je me suis dit, quand ça cesse, je pars marcher. Où ? J'ai fait le tour de France à pied, j'ai fait le tour de la Méditerranée, j'ai fait Saint-Malo-Bamako. À chaque fois, j'essaye de trouver une colonne vertébrale très forte. Le tour de France à pied, j'ai marché dans des régions qui ne sont pas vraiment festives. Je voulais un paysage fort. Et petit à petit, je me suis dit que quel est le contexte géographique où il se passe toujours quelque chose 24 heures sur 24. Quand vous êtes au fin fond de la Haute-Marne, champ de betteraves, la Picardie ou autre, une journée les pieds dans les betteraves, les événements, il faut avoir de l'imagination. Là, quand vous êtes au bord de la mer, à longer cette limite entre terre et mer, il se passe toujours quelque chose. Et il y a très peu d'environnement industriel. Vous avez Dunkerque, oui. Vous avez après Boulogne-sur-Mer, c'est petit. Vous avez Le Havre, qui est une grosse pieuvre industrielle. Brest, mais après, vous n'avez pas ce syndrome de l'entrée en ville, l'entrée, donc cette périphérie qui, quand vous marchez, pendant une heure, vous êtes au milieu de certaines marques que je ne citerai pas et qui se retrouvent de manière identique ouais. Dans toutes les villes que vous abordez. Et c'est un environnement qui est désespérant. Là, quand je vais approcher des villes, des grandes villes, je les approche par la falaise, je les approche par la dune, je les approche par la plage, et puis par ce va-et-vient incessant du flux et du reflux. Ça va être passionnant. Et en cours de fantasme, en cours de construction de ce projet, il m'est venu à l'idée que pendant 365 jours, j'allais assister au coucher de soleil. Pas au lever de soleil. Au lever de soleil, bien sûr, à l'est, sur ma gauche, puisque je vais descendre du nord au sud, mais surtout sur ma droite, en marchant vers le sud, pendant 365 jours, je vais voir le soleil se coucher sur la mer. C'est pas le luxe.
Alors, Marc Roger, vous allez lire dans des médiathèques, des écoles, des collèges, et même chez des particuliers, comment s'est construit ce voyage?
Alors, quand je réfléchis à construire un voyage, il y a d'abord une recherche territoriale, le millefeuille que j'appelle le millefeuille administratif de la lecture publique. La bibliothèque départementale de Près, qui irrigue le territoire des bibliothèques des communes de moins de 2000 habitants. Ce sont les missions des bibliothèques départementales de Près. Et j'envoie une présentation, j'envoie une lettre de motivation, ça répond, ça ne répond pas. J'en parle énormément, j'explore beaucoup Internet, j'explore beaucoup les réseaux sociaux, quelles sont les associations de lecture, le club de 10 personnes qui se réunit une fois par mois à Ouistreham, au Cap Ferré. J'envoie un petit message, peut-être. Le réseau des librairies indépendantes. Là, déjà, je bénéficie du partenariat de l'école de la librairie, du réseau des librairies indépendantes initiales. J'espère, là je mets des guillemets, le réseau des librairies indépendantes de Nouvelle-Aquitaine, l'INA. Et ce réseau de librairies indépendantes, Calibrèze, les librairies, les cafés-librairies de Bretagne, toutes ces librairies sont déjà très attentives. Il y a des dates de prise, il y a avec des rendez-vous très précis, tel jour, dans notre librairie, tel programme. Et ça se cristallise tout le long du littoral. Et moi, après, ça me met une perspective de kilométrage.
Et les textes, alors, comment les choisissez-vous? Ce sont des textes forcément liés à la mer, l'océan?
Alors, il y a cette règle du jeu. Je pars pendant un an, je me fixe un point de départ, la frontière belge, un point d'arrivée, la frontière espagnole. Après, qu'est-ce que je vais lire? Je regarde ma bibliothèque, wow, il n'y a pas grand-chose. Je commence à emprunter des anthologies liées à la mer. J'en emprunte 4, ce sont des pavés entre 600 et 1000 pages. Et puis, je découvre l'hégémonie des classiques, l'hégémonie masculine. Les 4 anthologies que j'ai empruntées, qui sont récentes, je ne les citerai pas, qui sont des années de 2002 à 2020, oui, 2020, donc récentes, avec... tous les mouvements qu'il y a aujourd'hui pour réhabiliter les artistes femmes, eh bien, le ratio, c'est 97 écrivains hommes et 3 écrivaines pour contrebalancer. Alors là, je me pose des questions, je cherche, et puis je découvre des autrices absolument incontournables. Je découvre Anita Conti, grande océanographe des années 50, grande écrivaine. Je ne découvre pas Odette Dupuis-Godeau parce que déjà j'avais une passion pour son écriture sur ses voyages en Mauritanie. Mais je ne savais pas qu'elle avait écrit sur les îles bretonnes et qu'elle était originaire de cette région du littoral. Et puis, de fil en aiguille, je découvre toute une partie de l'iceberg cachée sous les flots. Et je découvre des contemporaines, des navigatrices, Isabelle Autissier, Florence Artaud. Je lis leurs livres, je me passionne pour ces différentes écritures.
La littérature maritime, c'est une littérature d'aventure, peut-être encore plus que d'autres littératures.
Alors, je me suis cantonné à la littérature française, parce que si j'allais vers tous les auteurs anglo-saxons et les auteurs étrangers, là, je serais encore en train de lire et de découvrir. Ça aurait été trop immense. Littérature d'aventure, pas forcément, pas uniquement. J'ai essayé de lire et de couvrir tous les champs de la relation au littoral, à la mer. On n'est pas toujours en pleine mer. On peut rester simplement sur le bord de la mer. Et en ce qui me concerne, je ne suis pas marin. Et je n'ai pas le pied marin du tout. Mais les écrivains au long cours me font rêver. Alors ça peut être la pêche industrielle, la pêche destructrice, ça peut être les activités nocives de tel ou tel port industriel. Ça peut être quelle crème solaire on met pour se protéger, soit et pour détruire par la même occasion la faune et la flore marine. Ça peut être tous les aspects, avec Chantal Thomas, originaire du sud-ouest Arcachon, on a la découverte sensuelle à l'adolescence de la nage. Sa mère était une très grande nageuse, et avec les mots de Chantal Thomas, on découvre la sensualité de la nage. On découvre la sensualité de la camaraderie quand elle est adolescente dans le bassin d'Arcachon. Ça, c'est un aspect qui n'est pas du tout aventure. Mais oui, si on prend le capitaine Nemo et le professeur Aronnax dans les soutes du navire, comment s'appelle-t-il, le Nautilus, là on part, c'est la grande aventure, fictionnelle, mais qui peut être une grande aventure avec Frédéric Brunkel quand on va pêcher le merlu bleu au large des côtes d'Irlande et d'Islande. Comment passer outre Victor Hugo, Les Misérables, Les Travailleurs de la mer. Et dans Les Misérables, j'ai trouvé cet extrait que je vais certainement lire dans la baie du Mont-Saint-Michel. Il arrive parfois, sur de certaines côtes de Bretagne ou d'Écosse, qu'un homme, un voyageur ou un pêcheur, cheminant à marée basse sur la grève loin du rivage, s'aperçoit soudainement que depuis plusieurs minutes, il marche avec quelque peine. La plage est sous ses pieds comme de la poix. La semelle s'y attache. Ce n'est plus du sable, c'est de la glu. La grève est parfaitement sèche. Mais à tous les pas qu'on fait, dès qu'on a levé le pied, l'empreinte qu'il laisse se remplit d'eau. L'œil, du reste, ne s'est aperçu d'aucun changement. L'immense plage est unie et tranquille. Tout le sable a le même aspect. Rien ne distingue le sol qui est solide du sol qui ne l'est plus. La petite nuée joyeuse des pucerons de mer continue de sauter tumultueusement sur les pieds du passant. L'homme suit sa route, va devant lui, appuie vers la terre, tâche de se rapprocher de la côte. Il n'est pas inquiet. Inquiet de quoi? Seulement, il sent quelque chose comme si la lourdeur de ses pieds croissait à chaque pas qu'il fait. Brusquement, il enfonce. Il enfonce de 2 ou 3 pouces. Décidément, il n'est pas dans la bonne route. Il s'arrête pour s'orienter. Tout à coup, il regarde à ses pieds. Ses pieds ont disparu. Le sable les couvre. Il retire ses pieds du sable, il veut revenir sur ses pas, il retourne en arrière, il enfonce plus profondément. Le sable lui vient à la cheville. Il s'en arrache et se jette à gauche. Le sable lui vient à mi-jambe. Il se jette à droite. Le sable lui vient au jarret. Alors, il reconnaît avec une indicible terreur qu'il est engagé dans de la grève mouvante et qu'il a sous lui le milieu effroyable où l'homme ne peut pas plus marcher que le poisson n'y peut nager. Il jette son fardeau s'il en a un. Il s'allège comme un navire en détresse. Il n'est déjà plus temps. Le sable est au-dessus de ses genoux. Il appelle. Il agite son chapeau ou son mouchoir, le sable le gagne de plus en plus. Si la grève est déserte, si la terre est trop loin, si le banc de sable est trop mal famé, s'il n'y a pas de héros dans les environs, c'est fini. Il est condamné à l'enlisement. Victor Hugo.
Nous sommes avec le lecteur public Marc Roger sur Radio Grand Ciel. Marc Roger qui reprendra la route en janvier prochain pour un voyage d'un an sur tout le littoral français de Bray-sur-Dunes à Hendaye. Voyage de lecture publique en lecture publique comme il se doit. Marc Roger, votre métier de lecteur public vous amène à beaucoup travailler avec les médiathèques, bien sûr, mais aussi les maisons de retraite. Et ça, depuis le début, ça a été c'était un point important de votre travail.
Alors, ça a été une occasion qui m'a été proposée et c'est ainsi que j'ai débuté mon métier de lecteur public. Ma première lecture publique, c'était en maison de retraite, à la MAPI de Sarcelles, le 30 octobre 1992.
Et vous vous souvenez de cette première expérience, de ce premier rapport avec les personnes âgées ?
Oui, parce que je n'aurais jamais imaginé que c'était une activité possible. J'avais fait mon spectacle de poésie sonore une semaine auparavant, qui n'avait pas fonctionné, et la directrice m'a donné la chance, revenez la semaine prochaine, pas au tarif spectacle, au tarif animation, et faites-leur la lecture, c'est ça qui leur plaira. Et ma femme m'a dit, là, tu n'as pas le droit à l'erreur, lis-leur du Guy de Maupassant et du Alphonse Daudet. J'ai fait un succès, un triomphe. Et j'ai découvert cette activité. Et j'ai découvert le plaisir à transmettre ces textes et le plaisir qu'avaient les auditrices et les auditeurs. La directrice de l'établissement avait un budget pour me recevoir une fois par semaine. Et tout de suite, en 1992, j'ai compris qu'il y avait une activité à plein temps à développer. J'ai prospecté toutes les maisons de retraite d'Île-de-France, il y en a énormément, et j'ai appris mon métier sur le tas. Je réunissais les gens autour d'une table, après, quand les auditoires sont devenus plus importants, je me suis mis debout pour que les gens m'entendent bien. J'ai appris à porter ma voix, à travailler. Je n'avais pas de formation, travail vocal, ni de chorale, ni théâtral. Et de fil en aiguille, un répertoire s'est constitué. Je tenais un journal de lecture. Et voilà, maison de retraite de telle ville, telle heure, j'ai lu telle et telle nouvelle, telle et telle durée, texte qui n'a pas plu, difficile de savoir pour quelle raison, mais certainement trop long, texte qui a emballé le public pour telle et telle raison, ce texte parlait de gastronomie, ça a enchanté les oreilles, ce texte parlait de voyage, ce texte, curieusement, parlait de la mort, et il a enthousiasmé le public. Je pourrais citer Madame Rosie de Henri Gougaud, une petite dame de 83 ans qui apprend qu'elle va mourir. Et hop, elle ne se décompose pas. Elle prend son petit chapeau, son petit sac et elle va partir comme ça en voyage jusqu'au Maroc. Et elle va faire un creux dans les dunes et elle va attendre l'apparition de deux étoiles pour mourir. C'est une très belle histoire qui dure 8 minutes. Et à chaque fois que je la lisais, je demandais « Quelle histoire avez-vous préférée aujourd'hui ?»« Madame Rosie » de Henri Gougaud. « Pourquoi ?»« Elle a eu le culot de le faire.
» Alors, dans les maisons de retraite, nous connaissons ce public-là. C'est un public très particulier. Et j'imagine que vous avez dû adapter votre façon de lire. Je pense rien qu'à la surdité, par exemple, des personnes âgées. Ça demande une certaine adaptation. Et puis, on aurait cette image, peut-être très fausse, d'une certaine passivité aussi. Quel genre de public est-ce dans ces maisons de retraite ?
Alors, le niveau de lecture, je dis toujours qu'en maison de retraite, on ne lit pas, on crie. Même des personnes très malentendantes, je m'arrangeais toujours à les positionner sur la chaise ou autre, du côté de l'oreille la mieux entendante. Et puis, c'est un exercice. Il ne faut pas avoir peur de répéter les phrases pour qu'elles soient bien perçues, pour être certain d'avoir été compris dans le sens de l'histoire. Des textes, Guy de Maupassant, c'est tapis rouge. C'est un écrivain réaliste. On a un point météo en début de nouvelle. On a typologie des caractères. On sait qu'il est gros, on sait qu'il boit, on sait qu'il est violent. Là, on a des nouvelles qui nous tiennent par le bout des oreilles. Mais il faut être sans arrêt en interactivité, en interaction avec le public. J'ai fait beaucoup la lecture auprès du troisième âge et quatrième âge, Alzheimer. Là, des petits groupes. Je voulais que ce soit des petits groupes pour pouvoir m'asseoir à côté d'une personne, mettre une main sur un avant-bras, une main sur une épaule, rassurer, être très présent physiquement. Il faut savoir que certaines histoires peuvent créer des paniques. et des délires. En maison spécialisée Alzheimer, je lis La chèvre de Monsieur Séguin et en pleine lecture, une personne s'identifie à la chèvre et qui se met à crier dans un délire. Il va me manger, il va me manger. Moi, je ne suis pas thérapeute. Les équipes sont là pour accompagner, faire des câlins. Je suis allé vers la dame et je lui ai dit « Touchez, c'est un livre, touchez le livre, c'est une histoire de papier. » Elle était partie dans son délire. L'auxiliaire de vie l'a accompagnée. Donc, la lecture a cette capacité de aussi bien rassurer par la voix que de créer une angoisse. La chose est son contraire. J'ai beaucoup appris pour que le texte soit un prétexte à la rencontre et que le texte soit aéré de ma propre personne, de ma propre personnalité, de ce que je suis et que j'essaye d'être, en accueillant dans la phrase écrite qui est lu en accueillant la vie qui est autour. Ça peut être une insulte d'une personne Alzheimer qui est perdue dans une rancœur personnelle. L'insulte ne vous est pas adressée, mais elle arrive dans le texte et il faut l'intégrer. Ouais.
On entend bien, Marc Roger, que cette expérience vous a vraiment marqué. D'ailleurs, vous en avez fait un très beau livre, Grégoire et le vieux libraire, paru en 2019 chez Albin Michel. Ça, pour le coup, c'est aussi une belle aventure littéraire, me semble-t-il. Il y a eu des traductions. Vous pouvez nous en parler ?
Ah là, c'est cadeau de la vie. Je provoque plusieurs entités territoriales, région Île-de-France, la communauté commune du pays de l'Ourcq. Je leur propose un sujet d'écriture et la bibliothèque départementale de Prête-Seine-et-Marne. Ces trois entités territoriales me disent « oui ». Je suis 6 mois en résidence à Marie-sur-Marne, dans un ancien presbytère, et je me suis isolé pendant 6 mois, à raison de 12 à 18 heures d'écriture par jour. Je savais où j'allais, je savais ce que je voulais écrire. Je voulais transmettre mon métier de lecteur public. Je pouvais pas mettre le titre Grégoire et le vieux lecteur public. Lecteur public, c'est un métier qui est inconnu du grand public. Alors j'ai cherché un biais et je me suis dit que en injectant mon expérience dans la bouche d'un vieux libraire, même si on ne lit pas, même si on n'achète jamais de livre, un libraire, on sait. Il y a peut-être une librairie à côté de la boucherie-charcuterie du centre-ville et il y a toujours un centre commercial qui propose un rayon librairie. Et tout ce qui est dit par la bouche du vieux libraire, c'est mon expérience de lecteur public. Et par contre, Grégoire, qui a 18 ans, qui n'a jamais rien lu de sa vie, là, ce n'est pas mon parcours personnel. J'ai eu un parcours scolaire tout à fait honorable, simple, mais pas raté comme celui de Grégoire, qui, lui, a des difficultés pour entrer dans la vie. J'ai essayer d'opposer à un vieux libraire très cultivé un jeune qui, lui, va découvrir les vertus de la littérature et va devenir très rapidement, au contact du vieux libraire, un lecteur public.
Oui, parce que vous lisez auprès des personnes âgées, mais pas uniquement, évidemment, vous lisez aussi auprès des enfants, des albums. La lecture, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour celui qui le reçoit. La lecture, ça soigne. Il y a le philosophe Mark Anna Wakenin qui a travaillé sur la bibliothérapie. La lecture, c'est ce qui nous remet dans une temporalité longue, cela nous sort de nous-mêmes. Vous avez le sentiment, quand vous lisez à ces publics-là, justement, que quelque chose, il y a quelque chose qui se passe, une découverte qui pourrait être faite.
Il y a une ouverture sur un ailleurs, aussi bien géographique qu'un ailleurs de pensée ou d'empathie pour des personnages qui sont éloignés de vous. Une situation, Fleur rouge de Paulette Pujol-Auriol. C'est un drame de l'esclavagisme et je passe les détails. Et j'avais dans la salle une femme qui était raciste, mais vous ne pouvez pas imaginer. Et chaque fois que je présentais un auteur étranger, elle se mettait sur ses grands chevaux. Il n'y a pas assez d'auteurs français. pour que vous nous lisiez tel ou tel. Et là, je lis Fleur rouge de Paulette Pougerol-Auriol, qui est écrivaine à vérifier. Et ce drame de l'esclavage, eh bien, elle pleurait à la fin de l'histoire. Elle avait pris fait et cause pour les personnages. Pas de commentaire de ma part. Pas de main sur l'épaule, alors madame, hein ? Non. Rien de ce genre. Mais en repartant, je me suis dit, il y a un petit bout de chemin qui a changé peut-être, un regard autre dans la tête de cette personne. Un dernier, avec une écrivaine contemporaine, plasticienne, performeuse, lectrice à voix haute elle-même, avec tout le respect que je lui dois, Sophie Poirier, qui est originaire de Bordeaux, si mes sources sont bonnes. Et elle a été frappée par ce bâtiment que quasiment toutes les auditrices et tous les auditeurs ont en tête, le Signal. Ce bâtiment qui, à Soulac-sur-Mer, est menacé de destruction par l'océan. Il a été évacué très récemment, en 48 heures. Les propriétaires ont été sommés de quitter leur appartement en 48 heures. Et Sophie Poirier, tout de suite, s'est emparée de ce symbole, du réchauffement climatique peut-être, mais surtout de l'érosion littorale qui est, depuis la nuit des temps, ce combat entre la terre et l'océan. C'est un livre qui est paru aux éditions Inculte qui vient de paraître, Le Signal. Il est formellement interdit d'y entrer. J'ai désobéi. Il y avait des gens qui vivaient ici. Ils entraient dans l'immeuble. Il y avait un immeuble ici. Il y avait toujours du sable dans l'escalier. Des gens montaient à l'étage 1, à l'étage 2, 3. Il y avait un immeuble, des bâtiments, face à la mer. Des tas de gens entraient dans l'immeuble. Des gens qui vivaient ici tout le temps, ou des gens qui venaient en vacances. Ça faisait du monde qui entrait et qui sortait. Chaque fois qu'ils montaient, ils laissaient derrière eux du sable. La dame de l'appartement 10 du bâtiment B s'énervait. Elle balayait plusieurs fois par jour. Tout ce sable la rendait folle. Elle s'énervait, elle balayait. Mais il y avait toujours du sable dans les escaliers. Quelquefois, les gens qui vivaient ici, quelquefois, ils en narguaient les autres. Avec leur vue, ils aimaient voir la mer. Et de chez eux, ils la voyaient. Ils ne pouvaient pas s'en passer. Ils ne pouvaient pas s'en passer. Cette vue-là, c'était un rêve, un privilège. C'était une certitude, c'était leur vue. On dit imprenable, des vues imprenables, comme les forteresses. Appartement bleu. Enfant, il posait sa bouche sur la vitre. Il se prenait pour un poisson dans un aquarium. Avec sa langue, il dessinait sur la vitre. Sa mère râlait, il laissait des traces. Enfant, il essayait de compter les vagues, le plus de vagues possible. Il s'ennuyait le dimanche en hiver, alors il comptait les vagues. Jusqu'à combien il arriverait à compter? Il restait là, immobile, il mangeait des gâteaux, il comptait dans sa tête. Sa mère se demandait bien à quoi il pensait tout ce temps à regarder par la fenêtre. Son record? 1527 vagues. Il aurait bien aimé compter jusqu'à 2000.
Marc Roger, un grand merci. Notre émission touche à sa fin. Il est temps pour nous de vous relâcher. Vous qui allez bientôt reprendre la route pour un an à partir de janvier 2023. Un an sur les routes de littoral français. Avec par exemple le jeudi 19 janvier qui sera le premier jour du voyage, c'est ça ?
À Dunkerque. Alors, le premier jour, c'est le samedi 21.
Samedi 21.
Mais au préalable, j'essaye de planifier des rencontres pour motiver les gens à venir marcher le samedi avec moi.
Alors, toutes ces dates, on pourra les retrouver peut-être quelque part ?
Sur le site internet www.lavoidelivres.com.
C'est tout attaché. Vous aurez toutes les dates. Vous pourrez suivre son voyage également. On n'a plus qu'à vous souhaiter bon vent.
Merci beaucoup, Simon.